des livres plein les oreilles. Bonjour, bonjour, Clotilde, dans votre compagnie, Clotilde Desailly, pour vous présenter des livres plein les oreilles, cette émission qui se dédie aux livres audio et que vous pouvez écouter, bien sûr, à Canal M ou encore en balado ou même à CKVL qui a la gentillesse de reprendre cette émission pour vos oreilles. Alors, si vous êtes des fidèles parmi les fidèles de des livres plein les oreilles, vous vous souvenez peut-être de cet entretien que j'avais eu avec Marie-Hélène Poitras, co-autrice avec Léa Clermont-Dion du livre « Les Superbes » qui témoignait du succès au féminin de personnalités dans des milieux aussi différents que la santé, la politique, la science ou encore la culture. Eh bien, Marie-Hélène Poitras nous arrive cette fois-ci avec « La Desiderata » paru chez Alto. C'est une autre série de femmes au destin beaucoup plus tragique que celle des superbes qu'elle nous offre de découvrir ici. C'est un livre charnel, c'est un livre puissant qui est porté à haute voix par nul autre que Pascal Monpetit. Et Pascal et Marie-Hélène ont accepté de nous parler de ces objets de désir et de leur noir destin jusqu'à ce que... Point de suspension. Également à l'émission, le prix France Culture Lire dans le noir. Je suis bien heureuse car des livres audio dont il a été question régulièrement à l'émission des livres plein les oreilles ont été récompensés, dont Lettre à Missy, lue par Anouk Grimbert. On parle de Colette, de lettres écrites à son amante. Et enfin, j'ai des nouveautés pour vous. Enfin, nouveautés, non, mais des classiques qui sont enfin enregistrés en audio. Oui, Un sac de billes de Joseph Joffaut et Les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar qui peuvent maintenant être lues par les oreilles. Une chanson, du moins une bribe de chanson pour nous laisser le temps de contacter nos deux premières invitées, Pascal Monpetit et Marie-Hélène Poitras, à qui je pense chaque fois que j'entends cette chanson de Benjamin Biolay, la superbe.
L'embrasure de la porte, Aliénor sourit malicieusement. Elle observe un moment le père, qui la dévore déjà du regard, puis admire la pièce de viande des grands jours, dont la langue sortie sur le côté rappelle la grimace des dépravés au moment de jouir. Elle s'empare d'une cuillère d'argent et gratte le front laqué du sanglier, là où la bougresse a doucement fait couler du beurre. Elle avale d'un trait le verre de chartreuse du père, salue ses hôtes et s'assied au bout de la table, face à la hure, à la place du patriarche. Venue de la forêt, une voix se coule par la fenêtre et murmure à son oreille des choses qu'elle seule peut entendre. « Entre à Noirax, Aliénor. Allez, mange, goinfre-toi, siffle le champagne, croque la poire chaude, mord dans la chair, lappe le gras brûlant. Prends tout ce qui, de la corne d'abondance, se rendra à ta fourchette et ne remercie personne. Tu es ici chez toi. Bienvenue dans la malmaison. »
Quel livre, quel univers, quelle ambiance, un petit peu le même sentiment, j'aime pas faire des comparaisons, mais celle-ci est une excellente comparaison, lorsque je me suis plongée pour la première fois dans l'univers de Sylvie Germain. Mais cette fois-ci, nous sommes dans celui de Marie-Hélène Poitras qui nous ouvre les portes d'un destin assez tragique, celui des Desiderata. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Et bonjour Pascal Monpetit qui a porté ce livre à voix haute jusqu'à nos oreilles.
Bonjour Clotilde.
Je suis vraiment ravie. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Si vous me le permettez, Marie-Hélène et Pascal, je voudrais commencer par la définition du mot desiderata. Parce
oui.
que, hein, alors desiderata, alors c'est là où ça devient tout de suite très intéressant, nom masculin, mais qu'on utilise constamment au pluriel. Ce que l'on souhaite voir se réaliser, souhait, veut, faire connaître ses desiderata en matière d'horaire. Donc, c'est un nom qui se conjugue au masculin pluriel, mais vous, délibérément, c'est au féminin pluriel, Marie-Hélène Poitras.
Oui, et puis, je dois dire que c'est un mot que j'ai découvert récemment pendant un voyage en France, ah. où j'entendais cette expression quels sont vos desiderata ou selon vos desiderata. On l'entendait même au restaurant. Qu'est-ce qui vous plairait, un peu dans ce sens-là. Et puis, je trouvais ça tellement poétique et chantant. Nous, on l'utilise pas, ce mot-là, au Québec. Et puis, donc, je suis revenue avec ce mot qui m'inspirait et que j'ai un peu réinvesti à ma façon.
Oui.
Même quand est venu le temps de le mettre sur la page couverture en titre, je savais pas trop si je voulais mettre des accents aigus ou pas d'accent
oui,
aigu.
Oui, je m'en suis doutée, d'ailleurs, parce que j'ai dit, tiens, elle a pas mis d'accent, mais c'est peut-être voulu. Vous, Pascal, est-ce que c'est un mot que vous utilisiez régulièrement, que vous connaissiez?
Ben, c'est-à-dire, je sais que c'est le titre d'un poème célèbre, là, d'un oui. espèce de poème, enfin, d'un poème ou de texte philosophique, si on peut dire, là.
Mm-hmm.
J'avais entendu le mot, effectivement, mais pas dans le sens de désir, nécessairement.
Non, c'est ça. Alors, je vais reprendre vos mots, Marie-Hélène Poitras, pour commencer. Et pourtant, ce sont des mots qui n'arrivent qu'en page 109 de ce livre qui en compte 188, mais ça me paraissait parfait pour débuter cette entrevue. Il était une fois une histoire qui ne se raconte pas, dont les mots n'ont effleuré aucune lèvre, celle des desiderata rédigés à l'encre blanche. D'abord, bravo. Hein, et puis, Pascal, d'ailleurs, je vais vous demander un peu plus tard, mais il me semble que lire un livre comme celui-ci, c'est du vrai régal.
Nous, ah ben oui.
Hein, oui. On va s'en reparler tout de suite. Nous sommes à Noirax. Je remarque que le suffixe « ax » est omniprésent dans le bouquin. Il y a toujours « ax » quelque part, même en ville, où il y a un boulevard, à un moment donné, qui s'appelle le boulevard des Grands Axes. C'est voulu, ça?
Oui, ben en fait, c'est que j'ai créé un nouvel espace et puis on pourrait penser que ça se passe dans la campagne française, puis effectivement, c'est ce qui m'a inspirée. On pourrait aussi penser que mon éditeur dit que ça se passe quelque part entre la Beauce et l'Ardèche et j'aime beaucoup ça. Et puis j'ai voulu renommer ce territoire-là d'une manière qui n'existe pas, juste pour brouiller les pistes, mais aussi pour me donner toutes les permissions. Parce qu'à partir du moment où je réinvente et où je nomme ce territoire-là à ma façon, je peux vraiment me permettre tout ce dont j'ai envie. Puis j'ai même, par exemple, moi, je trouvais le mot Finistère tellement beau. Je pense que c'est dans le coin de la Bretagne. Puis j'avais
c'est
vraiment
ça.
C'est le bout du bout de la Bretagne. Oui.
C'est ça.
Que c'est parfait de nommer un lieu comme ça quand c'est le bout là où la terre se finit. Puis je voulais utiliser ce mot-là. Puis avec Antoine Tanguay, mon éditeur, m'a dit « Ah, mais c'est parce que ça réfère vraiment à un endroit qui existe pour vrai. » Puis il y a aussi je pense qu'en Espagne ou au Portugal, il y a un lieu, qui un territoire qui est nommé d'une façon semblable. Et puis là, je me suis dit « Ah, pour éviter toute confusion, je vais me servir de du suffixe acte. Puis je vais ponctuer ça un peu partout. » Puis pour ce qui est du sud, j'utilise le mot Saud, le l'ouestan. Puis j'avais dessiné d'ailleurs une petite carte qui était collée devant le bureau où j'écris, juste pour pouvoir me repérer. Puis je savais où les personnages, d'où ils venaient, où ils se déplaçaient. Donc j'avais ma petite carte pour que ça fonctionne dans ma géographie inventée.
Mais vous savez, je vais vous rassurer, je vais vous dire une chose. Je pense que de toute façon, tous les lecteurs, qu'ils soient de France, du Québec ou de Navarre, vont imaginer le lieu qu'ils connaissent le mieux. Parce que des maisons comme Malmaison, je vois, moi je suis normande d'origine et il y en a absolument partout en Normandie.
Hein.
Maintenant, est-ce qu'il y a des gens comme les Berthomieux, comme le fameux Bernard, qui, alors cette maison, la Malmaison, qui abrite la généalogie berthoumoise, hein, donc des Berthomieux, dont les femmes sont absentes sur les portraits.
Ouais.
Donc, il y a cet homme qui est le géniteur, le père, que je ne sais pas comment présenter. Pascal, monstre, innocent, abuseur de toutes ces femmes qu'il désire et qui finissent par mourir, je vous avouerai que je ne sais plus.
Ben, en fait, je trouve que tout le roman est traversé de métaphores et de métamorphoses.
Oui, c'est vrai.
Alors, le père, à la fin, sans dévoiler, là, je pense pas que ce soit un punch, mais il se retrouve, il perd son
sa superbe.
Son emprise sur tout le territoire, puis il redevient tout petit locataire dans un petit coin.
Oui. Alors que les femmes, c'est le contraire.
Je veux pas dire qu'il est puni pour ce qu'il a fait, mais oui, c'est tantôt un monstre, on peut le dire. Oui, tantôt un monstre, tantôt du fait qu'il est un homme, je vais m'avancer du fait qu'il est un homme, il a moins accès à la multiplicité des univers. Alors il est comme dans un monde univoque, alors que les femmes, elles, circulent plus facilement de la réalité à leur inconscient, à leur tout ça. Fait que lui, il est comme un peu poigné dans son cadre d'analyse qu'il restreint, puis qui en fait un monstre, peut-être, je sais pas, là, je dis n'importe
Marie-Hélène,
quoi.
Marie-Hélène Poitras.
Non,
elle dit pas n'importe quoi, hein, du tout.
Non, pas du tout. Pour moi, le père, c'est aussi une sorte d'archétype. Hein. J'ai fait exprès de l'appeler le père pas mal plus souvent que par son vrai nom. Il arrive au bout de toute une suite de pères qui sont tout le temps un peu le même genre de bonhomme, mais la seule chose qui change, c'est le cheptel d'animaux qu'ils élèvent. Donc, c'est comme ça qu'on les
différencie.
Et il y a un mot important que Pascal a dit, c'est le mot métamorphose. Moi, je voulais que mes protagonistes se métamorphosent tous. Je trouve que c'est un grand thème littéraire, c'est un thème riche qui fait toujours bouger les histoires. Quand on amène un personnage à se métamorphoser, c'est sûr que l'histoire va se transformer beaucoup. Et puis pour moi, ce personnage-là qui commençait au début avec tous ses privilèges, avec le pouvoir, avec la possession des lieux et du territoire, qui vivait dans le jour, alors qu'il y a toute une histoire en marge qui se passe un peu dans la forêt, dans l'ombre. Pour moi, c'est un personnage qui devait perdre le pouvoir. Et c'est ce qui lui arrive. Mais tu sais, on dit que, bon, c'est sûr que c'est un monstre, puis il a fait des choses très condamnables. Mais malgré tout, je pense que, étrangement, je pense qu'il est un peu attachant dans son côté ridicule et aristocrate. Ou je ne sais pas trop comment je suis arrivée
et
à le rendre attachant.
Et quasiment innocent dans tous les sens du terme. Ça. Ouais, c'est-à-dire complètement abruti, puis complètement innocent, parce que je sais pas. Moi, je vous dis, je me suis vraiment, parfois, je me dis, écoute donc, je vais l'haïr ou je vais l'aimer un petit peu.
C'est un genre de cabotin. Il y a un côté très cabotin. Puis à la fin, ben avec le revirement, sans dire les punchs, là, mais à la fin, il va quand même. Il paye pour ce qu'il a fait, mais peut-être pas de la manière dont on s'attendait.
Non, et ça, j'en parlerai pas, mais honnêtement, ça me brûle les lèvres parce que quelle idée géniale! Que c'est, quelle idée géniale de faire sortir le trop-plein de mots, de souvenirs, d'ignominies de son corps. Mm-hmm, on peut-tu dire ça juste de moi? Voilà, très bien.
En fait, je ne sais pas si je peux me permettre, c'est un peu comme... un peu dans le genre conte de fées, dans les contes de fées, quand apparaît un ogre qui mange des enfants, oui, c'est totalement immoral, évidemment, mais... On le condamne pas avec des arguments psychologiques. On se dit c'est un ogre qui obéit à sa nature et terrible d'ogre. C'est un peu comme ça que je vois le père, c'est qu'il est, je sais pas comment dire ça. Il est pas dans un cadre psychologique réaliste tout à fait, quoique très réaliste. Si c'est ça l'habileté de Marie-Hélène, c'est qu'on est un pied dans la réalité, un pied dans l'imaginaire. C'est vrai qu'il est inqualifiable dans le sens
c'est
moral.
Vrai.
Il est inqualifiable.
Mais ce qui est merveilleux, Pascal, et tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'en filigrane, il y a toutes ces chansons enfantines qui arrivent et qui, elles aussi, n'ont finalement rien d'innocente. Et ça m'a, comment on dit en bon québécois, flabbergasté, mais vraiment, c'est complètement... Je voudrais, avant qu'on écoute un deuxième extrait qui sera très court, qui est celui qui nous est proposé par Alto et le studio Bulldog, où ça a été enregistré, quel beau boulot. Je vais en reparler, Pascal Monpetit, tout de suite avec vous après l'extrait, mais je voudrais quand même, parce que là, les gens ne savent toujours pas ce que sont les Desiderata. Marie-Hélène Poitras.
Les Desiderata sont des femmes qui ont été désirées ardemment. C'est des concubines, mais c'est des femmes aussi désirantes. Donc, les pères les voyaient comme des objets, mais ce qu'on découvre dans le livre, c'est qu'elles ont été aussi des sujets et qu'elles ne se sont pas tues complètement. Du moins, leur voix va se frayer un chemin. Il y en a qui ont connu un sort terrible, mais il y en a qui existent encore. Et elles ont eu aussi des filles, les Desiderata. Il y a eu des héritières de tout ce qui s'est passé, de tous les drames. Donc, ce sont des femmes qui ont la colère en leur sein, je dirais.
Oh, d'ailleurs, à un moment donné, il y a une phrase merveilleuse. Pascal, j'imagine que vous vous en souvenez, c'est... je ne l'ai pas sous les yeux, ça va être de mémoire, où il y en a une qui dit à une autre « Tu veux savoir ce que c'est que la colère? Écoute mon ventre. » Est-ce que c'est bien ça? Quelle écriture, Pascal, quel cadeau pour une lectrice comme vous.
Oh oui, vraiment. En fait, j'avais le trac parce que c'est très facile de dénaturer un texte à la lecture, hein, parce que c'est surtout quand l'écriture est si personnelle et tu sais, Marie-Hélène Poitras a une signature dans chacun de ses livres, puis tu te demandes, tu t'espères ne pas trahir sa musique, sa musique à elle, tu sais.
Mais moi, j'ai envie de dire que je te rassure, Pascal, parce que pour moi, c'est vraiment un bonheur de t'entendre lire l'histoire, là, parce que je la découvre chapitre par chapitre avec mon chum et ma fille avant d'aller se coucher. On écoute la Desiderata racontée par Pascal, puis je me rends compte aussi de tout le travail. Tu es vraiment une athlète de la narration, j'ai envie de le dire comme ça, parce que je réalise qu'il y a des choses qui... Tu sais, il y a des mots goulayants qui sont le fun à écrire, mais qui sont pas évidents à se mettre en... Juste le mot « hure », la « hure », tu sais, ça se dit pas de façon si simple que ça. Et puis, et ce que j'aime aussi, c'est l'espèce de... le ton est parfait. C'est comme le narrateur est un peu investi dans l'histoire, mais sans jouer non plus,
non.
En ayant une certaine distance. Mais il y a quelque chose de très incarné. Puis aussi, je remercie Pascal parce que je lui ai demandé de chantonner, de fredonner
oui.
ma chanson.
Oui.
Et elle a accepté. Donc ça, j'étais ravie de ça.
Allez, un petit extrait.
La maison sent bon, un fumet de viande de tête. L'œil du père balaie la croupe de la bougresse sans s'attarder. Son cœur bat un rythme de polka endiablé. Lorsque la hure est prête, on la sort du four. On dirait un blessé de guerre avachi sur un brancard. La déficeler, enfoncer des truffes dans les orbites, redresser les oreilles blanchies, enfouir une poire dans la gueule de la bête, monter la pièce dans les règles de l'art. La langue fut bien travaillée par la main du père, et le lard fondu dans ses pores a refermé la longue entaille sur l'organe pour l'insertion des pistaches. On fixe la tête sur un ovale de mie. Le père, ayant envie d'un verre de chartreuse, redescend au cellier. Soudain, un bruit d'effondrement au rez-de-chaussée. La bougresse a fait tomber une chaise. Entre la peinture de Poédras et l'horloge grand-père arrêtée à l'heure de la mort de Pampelune, Gentil vacille. On pourrait croire qu'il a entrevu le fantôme de celle-ci. Dans l'embrasure de la porte, Aliénor sourit malicieusement. Elle observe un moment le père, qui la dévore déjà du regard, puis admire la pièce de viande des grands jours, dont la langue sortie sur le côté rappelle la grimace des dépravés au moment de jouir.
Cette ambiance musicale signée par deux personnes, Marie-Pierre Arthur et un autre nom,
François Lafontaine.
François Lafontaine,
ouais, c'est beau ce qu'ils ont fait.
C'est remarquable.
Magnifique, ça me donne des frissons à chaque fois que je l'entends.
C'est remarquable. Et ça a été enregistré au studio Bulldog que j'ai visité hier, figurez-vous.
Ah oui, c'est vrai. OK.
Quel bel endroit, Pascal, pour faire de la lecture.
Oui. Tu sais, puis on est. C'est très intime lire, puis on fait ça en petite équipe là.
Oui.
Tout le monde est au bout de sa chaise, puis on écoute, on essaie de trouver la bonne, le bon ton, la bonne chose. On est on est concentré dans le bon sens du terme, très concentré. C'est très agréable. Ouais. Anne-Marie Genet, qui travaille aussi chez Alto, avec Antoine Tanguy, m'avait fait écouter des extraits de la musique qui allait accompagner qui allait faire partie du tout. Puis ça m'a beaucoup instruite sur le ton que je pouvais prendre ou pas.
Oui.
Parce que c'est comme si je laissais à la musique le côté planant, le côté mystérieux.
Oui.
Je disais à Marie-Hélène que j'avais l'impression que ça représentait la forêt, que ça personnifiait la forêt, la musique.
Mais je me disais, moi, que c'était comme un maquillage. Tu sais, quand on se transforme, qu'on s'habille et qu'on se maquille pour un personnage, on change automatiquement. Hein? Et je me disais que cette musique-là, c'était un peu votre maquillage et votre costume. Quoi.
Ah, c'est bon. Parce que, par ailleurs, peut-être qu'on ne l'a pas dit, parce qu'on a parlé de mythologie, on a parlé de généalogie, on a parlé de lignées de femmes. Ça, c'est très, très sensuel comme roman. C'est plein. Tu sais, c'est plein de sens, c'est plein de sensualité. Donc...
Les scènes de bouffe,
aussi,
c'est pas notamment.
C'est pas seulement planant. C'est pas éthéré, c'est pas abstrait. C'est très ancré dans le réel. Le désir, c'est du désir. La pomme juteuse qui etc.
Oui, absolument. Tout est là, tout est dit, je sais pas, on peut même plus appeler ça de la poésie avec un lyrisme. Vous n'avez sûrement pas écrit ça juste pendant le confinement. Il me semble que c'est un truc. Un livre tellement abouti, tellement travaillé. À un moment donné, il est question des poupées russes, Marie-Hélène Poitras.
Oui, un roman gigogne, d'une certaine façon.
Et c'est un peu ça aussi. Honnêtement, vous avez travaillé là-dessus combien de temps?
Ah, c'était interminable. J'ai commencé ce livre-là en 2014 et puis je travaillais à temps plein puis j'avais vraiment pas souvent l'occasion d'écrire. Incroyable. Et j'étais dans une situation de manque là, en regard de l'écriture. Puis chaque fois que j'avais un peu de temps pour écrire, c'était comme je vibrais, j'étais tellement heureuse de pouvoir le faire. Donc, il y avait tout le temps une sorte de magnétisme. Cette histoire-là, je l'ai beaucoup mijotée. T'sais, j'ai eu beaucoup de temps d'y penser. Puis même à un moment donné, je me suis dit, coudonc, est-ce que je vais la finir un jour, cette histoire-là? Puis on dirait que j'ai pas eu, à cause de ça, de ce petit doute-là, j'ai eu envie de toujours me mettre au défi, de m'envoyer dans des petits coins dont je savais pas trop comment me sortir et en me disant, ben j'aurais bien le temps d'y penser. Mais je dirais que j'ai écrit à peu près le deux tiers du livre en 5-6 ans, puis vraiment, la dernière partie, c'est l'automne dernier. Oui. Donc, il y a quelque chose qui s'est accéléré dans l'écriture. Et puis, je pense que si je l'avais écrit, mettons, si j'avais eu l'occasion de l'écrire en 2 ans, j'ai l'impression que le roman aurait été complètement différent. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours en arrière, puis il y a eu un moment où j'ai eu besoin de faire un peu comme les scénaristes, là, d'avoir vraiment devant les yeux, à côté de ma carte avec la géographie, d'avoir vraiment chaque partie pour bien comprendre où j'étais. Puis c'est pas si évident aussi d'organiser certaines révélations, tu sais, quand on veut qu'il y ait un punch à une place.
Oui.
Il y a aussi des petits punchs que le lecteur plus ou moins attentif pourrait manquer, mais que c'est pas si grave. Puis probablement que si quelqu'un le relit, il va voir des choses qu'il pouvait pas nécessairement apercevoir à la première lecture.
Et là, vous m'apportez le mot de la fin, Marie-Hélène Poitras, parce que vous qui, bon, vous venez de nous révéler que vous aviez mijoté, vous aviez fait mijoter ce livre pendant des années. Moi, j'ai envie de dire à nos auditeurs, d'abord, écoutez-le en audio, lire avec les yeux, oui, bien sûr, mais on peut lire aussi avec les oreilles, et honnêtement, par Pascal, mon petit, c'est un plus. Et non seulement ça, mais prenez-en peut-être juste une petite quantité et puis gardez-vous-en pour le lendemain, et puis pour le lendemain, et puis même que congelez-en un petit peu, puis revenez-y. Non, surtout, c'est vrai que la sensualité, notamment, les pages les plus sensuelles sont sûrement celles où la bougresse et les autres font la cuisine. C'est remarquable, c'est remarquable. Alors écoutez, c'est tout le temps qu'on a, mais quel bonheur de lecture, quel bonheur pour les oreilles, Pascal Monpetit. Je suis tellement contente que la comédienne que vous êtes consacriez beaucoup de temps à cet art qu'est la lecture à haute voix.
J'aime tellement, c'est ce que je préfère au monde, je vous le dis franchement. Là. Ah,
et bien alors on est deux. Ah. Marie-Hélène Poitras, je vous souhaite de faire un succès interplanétaire dans la francophonie qui vous permette et qui nous permette que vous ne soyez plus qu'auteur. Parce que vraiment, votre plume, elle est d'une originalité, elle est d'une...
Ah ouais.
C'est remarquable. Merci,
merci
vraiment.
Merci beaucoup, Clotilde. Merci.
De rien. Merci, Marie-Hélène Poitras. Et puis, merci, Pascal Monpetit. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que le livre est disponible sur papier et en audio à la maison d'édition Alto. Merci, mesdames.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Bye.
Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Les livres audio ont-ils leur prix ? Eh bien, oui, mais du moins en dehors de nos frontières, même s'il y avait eu une petite tentative il y a quelques années qui avait avorté malheureusement, mais ça va peut-être revenir. Alors ici, c'est sûr qu'on manque un peu de joueurs pour pouvoir créer cela, mais comme je vous le dis, ça viendra. Deux livres sont notamment à l'honneur au prix du livre audio France Culture, Lire dans le noir, et ce sont deux livres dont j'ai parlé parfois deux ou trois reprises à cette émission, des livres pleins les oreilles. Lettres à Missy, qui sont des lettres de Colette écrites à son amante, qu'on appelait Missy, et lues par Anouk Grimbert. Et puis aussi Nickel Boys de Colson Whitehead, qui a tant impressionné notre chroniqueur Gérald Cousineau notamment. Il était venu nous parler de la version audio qu'il avait écoutée. Alors, il est bon, je trouve, de souligner les prix qui sont reçus souvent pour la qualité sonore ou pour la qualité de la lecture. Et c'est ce que font depuis 11 ans les prix du livre audio France Culture, Lire dans le noir. Ça, c'est dans cette seconde demi-heure. Également, il est bon de souligner que les classiques de la littérature intègrent depuis très peu de temps, parfois, la grande famille du livre audio. Par exemple, Un sac de billes et Les mémoires d'Adrien, deux classiques de la littérature française, le premier de Joseph Joffaut et le deuxième, bien sûr, de Marguerite Yourcenar. Alors, je vais vous faire écouter des extraits dans cette seconde demi-heure de tout cela, et notamment aussi d'un extrait d'un livre de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, parce que un éditeur audacieux a déclaré un jour que Michel Houellebecq était un vrai génie de la littérature, et ça lui a permis à Michel Houellebecq d'être édité pour la première fois. Cet éditeur en question s'appelait Raphaël Sorin, puisqu'il a récemment disparu. Je vais évoquer sa mémoire. En attendant, un peu de musique, le temps qu'on prépare tout ça.
C'est le retour du karma. Crois-tu ça? Moi j'y crois. Les belles chez qui tu hantes les draps et qui gèlent de te revoir. Figez-la, le sang-froid. Même si tu regrettes quelquefois, bien pire sont les mots écrits en moi. Les ailes que tu perds te laissent en bas, à l'étage du combat, entre toi et toi.
Les meilleurs culpables, pour qui, pour qui.
Merci beaucoup. Je n'ai même pas eu le temps de te demander, mon petit Jean-Sébastien, est-ce que tu pourrais nous dire dans ton joli microphone?
On vient d'entendre Lili T avec la pièce « Les mea culpa ».
Les mea culpa. Eh bien, merci beaucoup, les mea culpa, pour ne pas avoir su qui chantait et le titre de la pièce. Sinon, vous écoutez toujours des livres pleins les oreilles, animés pour vous par Clotilde Seille. Depuis 11 ans, le prix du livre audio France Culture, « Lire dans le noir », récompense chaque année, et ce grâce au vote des auditeurs et internautes, les meilleurs, entre guillemets, livres à écouter, entre guillemets, parus dans l'année. Après un mois d'écoute des œuvres en lice, il y a un jury qui est constitué de 1128 auditeurs et internautes. Et ce jury a voté, a attribué les prix aux lauréats dans des catégories aussi différentes que le prix jeunesse, le prix fiction et le prix non-fiction. Marie Lalande, dans son excellente émission Images et mots à voix haute ici à Canal M, aura sûrement l'occasion de vous parler et de vous faire entendre un extrait du livre Jeunesse qui a été récompensé dans la catégorie Jeunesse, livre d'Émile Chazeran qui s'appelle Pour un chat, qui s'appelle Un chat dans la gorge. Ça a été édité chez Benjamin Media, et c'est lu par Carole Bélanger, et peut-être même que c'est déjà passé à l'émission. En ce qui me concerne, je me suis consacrée à deux livres dont j'ai eu l'occasion de parler à une ou plusieurs reprises à l'émission des livres pleins les oreilles dans les catégories fiction et non-fiction. On commence par Colette, lettre à Missy. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, je m'étais demandé ce que nous avions de Colette, ce qui existait dans le domaine du livre audio, parce que ce livre-là de Colette, enfin, en fait ce livre-là, ce recueil de lettres-là était sorti en audio, lu par Anouk Grimbert, et c'est dans la catégorie non-fiction, c'est ce livre-là qui a reçu le prix du livre audio. C'est au cours d'une soirée où se côtoie le tout Paris de la Belle Époque que Colette et la marquise de Morny, dite également Missy, personnage androgyne très curieux, donc c'est à cette soirée-là qu'elles se rencontrent, nous sommes en 1905, et les deux femmes vont vivre une intense histoire d'amour qui va durer 6 ans. Après leur rupture, il y a eu ces lettres qui témoignent d'une indéfectible complicité. On va écouter un extrait de Lettre à Missy, lu par Anouk Grimbert.
Grand Hôtel de Noailles et Métropole, Marseille, début juin 1909. Mon amour chéri, j'ai enfin reçu une lettre de vous, la première. Je suis bien contente. Elle est bougon, elle est gentille, et je la trouve délicieuse puisque vous dites que votre odieux enfant vous manque. Ma chérie, cela suffit pour me combler de joie, et j'en suis devenue rouge, toute seule, de plaisir, d'une sorte d'orgueil amoureux. Que ce mot ne vous choque pas, mon pudique petit Missy, il n'y a vraiment que le mot amour qui puisse servir pour dire la complète, la complexe et exclusive tendresse que j'ai pour vous.
Oh, hein, ça doit être doux quand même, quand tu reçois une lettre comme ça et qu'il y a ces mots. Alors, c'est Colette, rien de moins, qui envoyait ces mots à son amante, celle qu'on appelait Missy. J'ai aussi un autre titre pour vous qui a reçu un prix, le prix audio du livre audio France Culture, Lire dans le noir. Là, cette fois-ci, nous sommes dans la fiction, quoique pas vraiment non plus, parce que on parle de Colson Whitehead, qui a écrit Nickel Boys, c'est sorti chez Audiolib, c'est lu par Stéphane Boucher, et ça c'est un livre qui a fait énormément de bruit, Nickel Boys, quand il est sorti. Il a reçu plusieurs prix, dont le prix... Est-ce le Pulitzer? Je ne me souviens plus et j'ai oublié de le prendre en note lorsque j'ai préparé cette émission-là. Mais en tout cas, oui, c'est un livre qui a reçu énormément de prix. Cette histoire d'orphelin noir qui vivait dans des conditions absolument déplorables, et on a même retrouvé un charnier avec leur corps à l'arrière de cet orphelinat. Et Nickel Boys, c'est comme ça qu'on les appelait, ces enfants noirs-là. Et c'est donc le sujet du livre de Colson Whitehead, qui a bien reçu le prix Pulitzer 2020. On nous dit sur le site d'Audiolib, le résumé qu'on en fait, c'est celui-ci. Nous sommes dans la Floride ségrégationniste des années 60. Le jeune Elwood Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsqu'à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des hommes honnêtes et honorables. Extrait de Nickel Boys de Colson Whitehead.
Nickel était fermé depuis 3 ans, ce qui expliquait l'état sauvage du terrain et l'habituel vandalisme adolescent. Même le plus innocent des décors, un réfectoire, un terrain de football, prenait un aspect sinistre, sans qu'il y ait besoin de recourir à des trucages photographiques. Les images étaient dérangeantes. Des ombres tremblantes s'insinuaient dans les coins, et la moindre tache évoquait du sang séché. À croire que l'équipement vidéo faisait ressortir la nature sombre de chaque image, absorbant le nickel visible et recrachant le nickel invisible. Si cela se produisait avec les lieux les plus anodins, pouvez-vous imaginer le résultat lorsqu'ils étaient hantés? Les garçons de Nickel revenaient moins cher qu'une danse à 10 cents, et on en avait pour son argent. C'est en tout cas ce que les gens disaient.
Où est-ce que je suis? Qui êtes-vous? Que je fais ici, emmenez-moi partout, partout, mais pas ici. Faites-moi oublier tout ce que j'ai été, inventer mon passé, donner sens à la nuit, inventer le soleil et l'aurore apaisée. Je n'ai pas sommeil, je vais vous embrasser. Êtes-vous mon ami? Répondez, répondez. Où est-ce que je suis? Il y a du feu partout. Je n'entends plus de bruit. Je suis peut-être fou. Il faut que je m'étende et que je dorme un peu. Il faudrait que je tente de nettoyer mes yeux. Dites-moi qui je suis, regardez-les mes yeux. Êtes-vous mon ami, me rendrez-vous heureux? La nuit n'est pas finie et la nuit est en feu. Où est le paradis? Où sont passés les dieux? Oh, êtes-vous mon ami? Oh, êtes-vous mon ami?
La voix que vous entendiez, c'était celle de Jean-Louis Aubert qui chantait du Michel Houellebecq, parce que Michel Houellebecq, auteur, s'est commis également dans l'écriture de quelques chansons, notamment celle-ci qu'on vient d'entendre. Le titre, je l'ai quelque part pour vous, Isolement de Michel Houellebecq, chanté par Jean-Louis Aubert. Pourquoi je vous parle de Houellebecq? Eh bien, parce qu'il y a un éditeur français aux éditions du Ring, notamment, mais il est passé avant d'avoir créé cette maison d'édition-là par à peu près toutes les maisons d'édition françaises. Il s'appelait Raphaël Sorin. Et j'ai voulu lui rendre hommage parce que c'est un homme qui notamment nous a révélé le génie, d'après ce qu'il en disait, de Michel Houellebecq. Il a participé littéralement à l'essor de cet écrivain-là, qui a été en fait édité la première fois par Maurice Nadeau, mais c'est à cette époque que Sorin affirmait, entre autres auprès de Flammarion, que cette maison, que le bouquin, et là on parle des particules élémentaires, était un véritable chef-d'œuvre. On va entendre un extrait de ces particules élémentaires qui existent en livre audio. Mais d'abord, quelques mots sur M. Sorin, qui est né à Chambéry en 1942. Il s'est donc éteint à 78 ans. Quelqu'un qui, disait-on, n'était ni de droite ni d'extrême droite, mais qui défendait le droit absolu d'informer et qui soulignait systématiquement une force nouvelle de textes qui, disons, n'étaient pas de gauche. Voilà, on va dire ça comme ça. Et parmi les auteurs qu'il a accompagnés, on retrouve le chanteur Jean-Louis Coste chez Fayard. Ça, c'était certainement par provocation. Il y en a d'autres comme Philippe K. Dick, qui est un véritable génie de la science-fiction. Et il y a donc, je vous disais également, Michel Houellebecq. Je ne sais plus qui disait, un autre éditeur, qui disait au sujet de Sorin, « Tu n'avais peur de rien ni de personne. Ton souvenir, l'admiration et l'amour que nous te portons nous resteront impérissables. Que le ciel te garde, Raphaël, et apaise la douleur de ton épouse, de tes enfants et petits-enfants. » L'éditrice Muriel Beyer a elle-même témoigné en disant, lorsqu'elle a appris le décès de son ami Raphaël Sorin, qu'il lui a fait découvrir tant de beaux textes. Et puis elle disait, que de souvenirs et que de fous rires, un vrai découvreur, un homme de culture sans compromis. Ça valait le coup que je vous parle de lui et qu'on écoute un extrait du livre « Les particules élémentaires » de Michel Houellebecq. C'est sorti chez Écoutez lire Gallimard et c'est lu par Nicolas Briançon.
À 19h30, tout était terminé. Dzierzinski traversa le parking en compagnie d'une collègue aux longs cheveux noirs, à la peau très blanche, aux seins volumineux. Elle était un peu plus âgée que lui. Vraisemblablement, elle allait lui succéder à la tête de l'unité de recherche. La plupart de ses publications portaient sur le gène DAF3 de la drosophile. Elle était célibataire. Debout devant sa Toyota, il tendit une main à la chercheuse en souriant. Depuis quelques secondes, il prévoyait d'effectuer ce geste, de l'accompagner d'un sourire. Il s'y préparait, mentalement. Les paumes s'engrenèrent en se secouant doucement. Un peu tard, il songea que cette poignée de main manquait de chaleur. Compte tenu des circonstances, ils auraient pu s'embrasser, comme le font les ministres ou certains chanteurs de variété. Les adieux consommés, il demeura dans sa voiture pendant 5 minutes qui lui parurent longues. Pourquoi la femme ne démarrait-elle pas ? Se masturbait-elle en écoutant du Brahms ? Songeait-elle au contraire à sa carrière ? À ses nouvelles responsabilités ? Et si oui, s'en réjouissait-elle ? Enfin, la Golf de la généticienne quitta le parking. Il était de nouveau seul. La journée avait été superbe, elle était encore chaude. En ces semaines du début de l'été, tout paraissait figé dans une immobilité radieuse. Pourtant, Dzierzinski en était conscient. La durée des jours avait déjà commencé à décroître.
Du pur Houellebecq, mes amis, maintenant aussi en audio. Ça a été enregistré en 2019, si mes souvenirs sont bons, dans la collection Écoutez lire. Maintenant, j'ai pour vous, non pas des nouveautés, quoique ce sont des nouveautés en audio. J'aurais voulu vous dire un petit mot sur deux classiques qui viennent d'arriver. Parmi tous ces livres qu'on peut lire par les oreilles, il y a notamment Un sac de billes de Joseph Joffo. C'est lu par Maxime Baudouin. C'est une production des studios Audiolib. Nous sommes en 1941, alors que Paris est occupé par l'armée allemande. Joseph et Maurice sont deux frères juifs âgés de 10 et 12 ans qui décident de quitter la ville et ils partent seuls sur les routes pour tenter de gagner la zone libre. Et à travers le regard, Joseph Joffaut donne à lire une vision inédite de la Seconde Guerre mondiale, traversée certes par la douleur, mais aussi par la gaieté et par les cocasseries de l'enfance. C'est un récit autobiographique qui a été publié pour la première fois en 1973. Il était temps que ça existe en audio. C'est aussi un des plus grands succès de librairie de ces dernières décennies. Et on nous dit que Maxime Baudouin s'empare de cette histoire avec une énergie et une finesse qui fait revivre ce livre culte qui n'avait encore, je vous le disais, jamais été enregistré. C'est un livre d'une durée de 7h44 lorsqu'on le lit par les oreilles. En voici un petit extrait. En tout cas, nous sommes avec des gamins, ils sont dans la boutique du père. Et qui voit-il assis dans la boutique du père, DSS de l'armée allemande?
C'est mon père qui a pris le deuxième. Là où j'ai ri quand même, malgré la trouille, c'est lorsque Samuel est entré. Il passait souvent le soir, dire un petit bonjour, comme ça, en copain. Il était brocanteur aux puces, à 200 mètres, spécialité de vieilles pendules. Mais on trouvait tout dans son stand. On y allait, Maurice et moi, faire de la farfouille. Il est entré joyeux. « Salut tout le monde !» Papa avait la serviette à la main. Il la déplia d'un coup sec avant de la passer au cou du SS. Samuel avait juste eu le temps de voir l'uniforme. Ses yeux sont devenus plus ronds que mes billes et trois fois plus gros. « Oh ! Oh ! » dit-il. « Oh ! » !»« Eh oui !» dit Albert. « On a du monde !» Samuel s'est lissé la moustache. « Ça ne fait rien !» a-t-il dit. « Je repasserai quand ce sera plus calme. » « D'accord. Mes hommages à madame. » Samuel ne bougeait toujours pas, sidéré, regardant les étranges clients. « Ce sera fait, » murmura-t-il. « Ce sera fait. »
Oups, qu'il ne voulait pas être là, lui. Les mémoires d'Adrien. Alors là, on change de sujet complètement. Marguerite Yourcenar, c'est lu par Stéphane Varupen. Œuvre à la fois romanesque, historique et poétique, hein, puisque en imaginant les mémoires d'un grand empereur romain, elle a voulu, Marguerite Yourcenar, refaire du dedans, c'est une expression que je lis dans un résumé, ce que les archéologues du 19e siècle ont fait du dehors. J'ai retrouvé pour vous, en préparant cette émission, quelques mots qui étaient sortis dans Le Monde du 9 janvier 1952, sous la plume de Émile Henriot de l'Académie française, qui écrivait « J'admire beaucoup Madame Marguerite Yourcenar d'avoir si bien réussi dans son entreprise, à égale distance de Quo Vadis et de Salammbô. Elle a résisté à la tentation d'écrire un roman dont Adrien eût été le protagoniste. Elle a joué la difficulté en le faisant lui-même raconter sa vie au point que l'on a parfois l'impression qu'elle traduit un texte latin. Elle sait tout ce qu'on peut connaître de son héros et du temps où il a vécu, lieux, monuments, écrits, inscriptions, médailles, monnaies, mœurs, histoires, conditions de vie. Elle est documentée sur tout à une bonne source. Et si l'on sait un peu de quoi il s'agit, c'est un plaisir que de voir un travail si bien fait. Ajouté à ce savant mérite, une remarquable intuition féminine à l'égard d'une psychologie d'homme à pénétrer et à expliquer jusque dans les mystères de sa vie amoureuse et de sa folle passion pour un jeune grec, le jeune Antinous. On va écouter un extrait des mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar. Je vous le disais, c'est lu par Stéphane Varupen et je vais retrouver pendant ce temps-là. Ah, c'est également chez Écoutez Lire que c'est sorti. On écoute.
À moins arrivé à l'âge où la vie, pour chaque homme, est une défaite acceptée. Dire que mes jours sont comptés ne signifie rien. Il en fut toujours ainsi. Il en est ainsi pour nous tous. Mais l'incertitude du lieu, du temps et du mode qui nous empêche de bien distinguer ce but vers lequel nous avançons sans trêve diminue pour moi à mesure que progresse ma maladie mortelle. Le premier venu peut mourir tout à l'heure, mais le malade sait qu'il ne vivra plus dans 10 ans. Ma marge d'hésitation ne s'étend plus sur des années, mais sur des mois. Mes chances de finir d'un coup de poignard au cœur ou d'une chute de cheval deviennent des plus minimes. La peste paraît improbable, la lèpre ou le cancer semblent définitivement distancés. Je ne cours plus le risque de tomber aux frontières frappé d'une hache calédonienne ou transpercé d'une flèche parthe. Les tempêtes n'ont pas su profiter des occasions offertes, et le sorcier qui m'a prédit que je ne me noierais pas semble avoir eu raison. Je mourrai à Tibur, à Rome ou à Naples tout au plus, et une crise d'étouffement se chargera de la besogne. Serais-je emporté par la dixième crise ou par la centième? Toute la question est là.
Et comme j'ai encore un petit peu de temps, je ne résiste pas à vous lire un autre petit paragraphe de M. Émile Henriot de l'Académie française, qui avait écrit, je vous le rappelle, dans Le Monde du 9 janvier 1952, au moment où Mémoire d'Adrien, ce livre est sorti. Il écrivait dans le journal « Comme on est ici dans la conjecture, faute d'éclairage personnel, les suppositions proposées par Mme Yourcenar semblent aussi valables que d'autres. » Et là, il écrit cette phrase « Les anciens ne faisaient pas tant d'affaires que nos pédérastes sur leurs amitiés particulières. » 1952. Voilà, c'est ainsi que se referme ce magazine des livres plein les oreilles, consacré, comme son titre l'indique, aux livres audio, qu'ils soient faits ici dans les studios de Vues et Voix ou ailleurs, ou même en dehors de nos frontières. C'est animé pour vous par Clotilde Seille, appuyé par l'ami Jean-Sébastien La Liberté en régie. Je voudrais remercier mes invités de la première partie, Marie-Hélène Poitras, autrice du livre La Desiderata, et Pascal Monpetit, qui en est la lectrice. Et c'est un livre audio qu'on retrouve au catalogue de la maison d'édition Alto. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres idées de livres à écouter avec les oreilles.